je vais vous présenter l'analyse critique d'une étude pronostique. Donc en fait, là, j'ai listé la liste des critères applicables aux études pronostiques. Donc il y en a 14 et on va les passer un par un en regardant chacun dans l'article que je vous ai envoyé, s'ils sont respectés ou pas. Donc, en fait, une étude pronostique, ça suit un échantillon d'individus tout au long de la maladie. Et ça, ça permet d'estimer la probabilité de survenue d'événements importants qui surviennent au cours de l'histoire naturelle de la maladie. Donc, ça peut être le décès, ça peut être une complication. Donc, en fait, l'étude pronostique va permettre d'identifier des facteurs qui vont permettre de prédire la survenue de ces événements. Et c'est ces facteurs qui sont des facteurs pronostiques. Donc en fait, l'étude pronostique, elle est construite pour mesurer l'association entre ce facteur pronostique et ces événements. Et donc elle ressemble en ça à une étude étiologique, puisqu'elle est comparative. Par contre, l'association entre les marqueurs pronostiques et la survenue de l'événement n'est pas nécessairement causale. En plus de l'estimation du risque relatif dans l'analyse statistique, il faut aussi estimer la sensibilité et la spécificité du marqueur pronostique pour prédire l'événement. Donc en fait, on va prendre comme exemple cet article.
Est-ce que tu peux...
Pas du tout.
On vous a expliqué que ce qui était très important, c'était de partir au départ d'un cas concret. Donc tout à l'heure, dans l'histoire de Pigogon, la problématique concrète, c'est que il y a un scoop à la radio, on annonce un nouveau traitement, ça peut être Rambert, ça peut être Pigogon, Là, le pronostic, est-ce que vous voyez des situations concrètes, des gens qui peuvent parler, où vous aurez à porter un pronostic? Vous voyez le problème concret? Vous avez à porter un pronostic. Hein? Tout le temps. Et effectivement, tout le temps. Et en particulier, lors de la première consultation d'annonce. Et puis, également, pour savoir tous les combien vous allez suivre ce patient. Est-ce que c'est un patient où vous pouvez vous permettre de le suivre tous les ans? Ou au contraire, il va falloir le suivre tous les 6 mois? Ou au contraire, le suivre tous les 3 mois? Ou peut-être le suivre, le revoir dans 2 mois, parce qu'il y a une situation très, très délicate avec un pronostic qui n'est pas bon. Donc c'est sans arrêt. Sans arrêt, le pronostic qu'on a à le faire. On manage ça, mais c'est tellement intimement lié, qu'on n'y pense pas, qu'on se base uniquement sur notre expérience personnelle. On n'étudie pas des études comme ça, qui sont absolument essentielles. Il y en a très très peu. Mais maintenant qu'on veut absolument, dans ce plan d'ailleurs, de faire la consultation d'annonce, qu'on va se retrouver en face des familles avec ou sans le malade, ou avec et sans le malade, je suis désolé, mais très vite les gens vont vous dire « So what ?» Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et en particulier, s'il rentre en institution, comment je paye? Mais ça va venir, ça, hein? Ça va venir. Donc ça, c'est une autre chose qu'il faut qu'on se mette dans la tête. Comprendre le pronostic, là, on ne pourra pas se baser uniquement sur notre expérience. Il faut les données. Il faut les données. Je suis incapable de vous dire, vous ne pouvez pas vous permettre de dire ça. Pour l'instant, on peut se permettre de dire ça. Je ne sais pas. Et dans 2 ans, 3 ans, vous pourrez plus dire je ne sais pas. Et les gens ne l'accepteront pas. Ils sauront qu'il y a des études comme ça. Ils le demanderont. Ils demanderont parce que savoir exactement quelle est la probabilité qu'ils soient encore chez eux dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, combien de temps ils vont rester en maison de retraite, combien ça va leur coûter. Combien de temps ils vont survivre? Par exemple, je vous donne une situation pratique. Déjà, vous pourrez plus le faire à la fin. Il n'y a pas d'études qui vont se passer. Moi, je vois une personne. J'ai vu deux personnes. Le premier, j'ai vu, c'est une femme de 80 ans, dont le mari dominée par la poussière. C'est elle qui développe la maladie. Lui, il s'occupe de tout. On l'a fixé. On a tout dans les pieds. En plus, il faut qu'il la chasse à la poussière. Il arrive à sortir le pronostic et casser la personne. Je suis quasiment sûr que pendant 5 ans, elle va rester chez elle sans aucun problème. Et qu'elle-même, elle mourra au bout de 5 ans sans être passée par la quinte dépendance majeure et sans être passée par les pronostics. Le problème, c'est pas des plus, c'est clinique. Ça, c'est très ennuyeux, par contre. L'inverse, j'ai le mari dominant qui est malade, la femme dominée, débordée. Très mauvais pronostic. Là, je vais voir le premier, je vais voir tous les 6 mois. Le second, je vais voir tous les 3 mois. Je fais un pronostic individuel par rapport à mon expérience et à la littérature que j'ai pas. Bien sûr que si on est dans l'évolution de la maladie, on fait un pronostic et je vais dire le premier c'est un mauvais pronostic, le premier c'est un bon pronostic. Donc je me dis, l'autre, je vois si les choses changent, parce que lui, il va mourir, il va bascule dans le mauvais pronostic. Et je fais un pronostic et j'adapte. C'est un pronostic, c'est une probabilité, c'est un pari. Mais quand vous donnez un traitement, vous faites un pari. Bien sûr que ça va marcher. Mais c'est quand même un pari, vous donnez un traitement. On est dans la même situation. On peut faire un pari avec un intervalle de pari. Et d'une série collective, vous pouvez tirer une décision individuelle. Parce que quelqu'un vous dit, on ne peut pas faire d'application individuelle, c'est des corps de tri. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot, ce n'est pas vrai. On peut le faire à un risque d'erreur, évidemment. Mais quand vous donnez un traitement, il y a un risque d'erreur. Faites un pari. Vous comprenez, c'est ça. Les statistiques, ce n'est pas uniquement la confiance, c'est aussi le pari. Vous voyez ? Donc vous pouvez le faire. D'ailleurs, vous le faites tout le temps. On le fait sans le savoir. Vous faites déjà les pronostics sans le savoir. Là, vous dites, voilà, ça va mal se passer. Vous voyez, si on le fait au fini. Alors, au lieu de le faire au fini, si on pouvait essayer ce que je vous raconte, vous êtes complètement faux. Moi, c'est ce qui me semble. Vous êtes complètement faux, monsieur. Tout le monde a à peu près l'air de dire tout ce que vous faites. Quand un mari ou une homme devient des membres pour faire avec vous, c'est possible. Alors, on va fou. Vous voyez, tandis que ce qui se dit à l'âme, vous dites à la boucle, ne l'attendez pas. Et ça, c'est complètement. Vous voyez, c'est des choses aussi. Et ça, vous pouvez le transposer de la même manière. Il ne faut jamais être manichéen dans cette maladie. Jamais. Toujours la vérité, mais toujours un compromis. Ça, c'est tout à fait ça. Mais ne pas prendre en compte les résultats issus de la science, ça, c'est ennuyeux. Parce qu'on peut faire beaucoup mieux. Donc, ouais, juste, c'était vraiment le point à quoi ça peut servir. Parce que si vous n'avez pas compris à quoi ça peut servir, il vaut mieux s'arrêter.
Donc le premier critère, c'est que le schéma d'étude soit adéquat. Donc ça, on va regarder à la fin de l'introduction dans l'objectif. Donc dans le pronostic, il y a forcément un suivi. Donc il faut que ce soit une cohorte. Donc elle peut être exhaustive, c'est-à-dire qu'elle inclut tous les individus qui ont la maladie étudiée. Ou elle peut être représentative, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de connaître la probabilité de survenue, la probabilité de sélectionner chaque malade. En fait, il est indispensable que cette cohorte soit représentative parce qu'on va calculer une probabilité de survenue d'un événement et il faut pouvoir extrapoler cette probabilité à tous les individus qui ont la maladie. Donc si la cohorte n'est pas représentative, on ne pourra pas extrapoler cette probabilité. Ensuite, les patients doivent être inclus dans la cohorte selon un critère diagnostique unique qui survient. C'est un événement qui survient le plus tôt possible dans l'histoire naturelle de la maladie. Et cela pour ne pas exclure des patients qui ont un pronostic différent. C'est-à-dire que si on prend un critère diagnostique qui arrive un peu tard dans la maladie, on peut exclure tous les patients qui sont décédés précocement. Or, on veut étudier en général le pronostic de tous les patients qui ont la maladie depuis le début de cette maladie. Donc, est-ce que vous pouvez me dire dans l'étude qu'on a regardée, quel était le schéma d'étude ?
Donc, c'est les patients déments. Vivant initialement chez elle, de plus de 75 ans, c'est ça ?
Oui.
de plus de 75 ans. La démence, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ce sont des démences incisantes à l'intérieur déjà du corps. On prend tous les nouveaux cas à l'intérieur du corps. Comme le pacouille, vous les transitez, vous voyez. Il y a une grande cohorte qui a été constituée à l'altique. Et on prend tous les cas incidents de démence qui sont venant dans cette cohorte. Et ensuite, comme vous l'avez dit, on les suit jusqu'à la fin de l'institution. Donc c'est quoi comme étude? Ici, on reprend par rapport à... Est-ce que c'est une cohorte exhaustive? Oui, c'est une cohorte exhaustive. Ils ont pris tous les cas. Tous les cas parmi les gens qui avaient participé à la cohorte distincte. Donc c'est une cohorte exhaustive. Ils prennent tous les cas. Si on avait pris une cohorte représentative, qu'est-ce que ça aurait été par exemple là, dans ce cas? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour avoir une cohorte représentative? Et ils le sont, ceux-là. Donc, on aurait tiré le sort à l'intérieur de tous ces cas, si on avait eu. Par exemple, imaginons qu'on ait une cohorte de 100 000 personnes dans lequel 10 000 sont des cas incidents. On ne va pas faire une cohorte de 10 000 cas incidents pour avoir la probabilité d'entrer à l'institution. Ce serait trop lourd, trop cher. Donc, à ce moment-là, on aurait tiré au sort un dixième de ces cas qu'on aurait suivi. Les autres, on ne les aurait pas suivis. Non, c'est trop lourd. Et là, en tirant au sort un dixième des cas, c'est-à-dire qu'on parle de 100 000, 10 000 cas de démence, on en tire au sort 1000, et comme ils se tirent au sort, ils sont représentatifs de la cohorte initiale. D'accord? Les cohortes représentatives, c'est les cohortes en général sont de milliers. Tirées au sort. Ou alors, si on veut avoir, ben c'est exactement comme les sondages représentatifs quand on veut savoir qui veut voter Sarko ou Martine Aubry ou qui vous voulez. Bref, là, on fait des sondages, on tire au sort un échantillon représentatif de la population. Si on voulait vraiment être sûr d'avoir un état de l'une offre, on va prendre tout le monde. Là, ce serait exhaustif. Vous comprenez bien que ce n'est pas possible. Donc, on tire au sort. Là, dans l'échantillon, c'est une cohorte exhaustive de démence incidente à l'intérieur d'une cohorte déjà ici. Donc ça correspond bien à un schéma d'étude adéquat avec un critère diagnostique unique.
Voilà. Donc le deuxième critère, c'est qu'il y ait une formulation claire de la maladie et des facteurs pronostiques étudiés. Donc ça, on doit le retrouver dans l'introduction ou dans la méthode. Donc en fait, soit il y a de nombreux facteurs potentiellement pronostiques, et c'est une étude exploratoire qui a pour objectif de générer des hypothèses sur les facteurs qui peuvent être pronostiques dans cette maladie. Soit c'est une étude qui étudie un facteur pronostique principal, et alors les autres caractéristiques des malades sont considérées comme des facteurs de confusion. Donc est-ce que vous pouvez me dire dans l'étude quels étaient les facteurs, enfin quel type d'étude c'était ? Exactement.
Voilà. Ils avaient étudié plusieurs. Il n'y a pas un facteur spécifique. Et c'est vrai que, comme le dit Lydia, effectivement, un des objectifs, c'est avoir le délai moyen. Et celui-là, il est descriptif. C'est un objectif descriptif. Là, quand on vous parle, toi, des identify factors associated with time until institutionalization, c'est l'étude, effectivement, exploratoire, qui, effectivement, permet de générer après de l'hypothèse.
Il y a des caractères qui sont jugés, sujet du patient, oui. Vivant maritalement ou vivant seul.
Donc, marié ou seul.
Le niveau d'éducation.
Le niveau d'étude.
Le niveau de sévérité de la démence.
Le niveau de sévérité de la démence au moment où on voit le patient. Étiologie.
Dépression.
Oui, présence d'une dépression.
Présence de comorbidité, en fait.
Présence d'une comorbidité.
Les caractéristiques de l'aidant.
En fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a tout un tas de facteurs. Qu'est-ce qui qui veulent savoir parmi ces facteurs quels sont ceux qui sont liés au risque d'entrer à l'institution. Donc c'est bien une étude exploratoire, même s'il y a effectivement aussi un côté descriptif dans l'étude qui est de savoir le délai moyen.
Alors, le troisième critère concerne toujours ces facteurs pronostiques et c'est de regarder la pertinence, la fiabilité et la validité de ces facteurs. Donc, en fait, ces facteurs pronostiques, pour voir s'ils sont présents ou absents chez les patients, il va falloir les mesurer. Et les outils de mesure doivent être fiables et valides et ils doivent être décrits dans la partie méthode. Ensuite, la mesure doit être pertinente, c'est-à-dire que le facteur pronostique doit permettre de différencier des groupes de patients qui sont franchement différents pour le clinicien ou sur lequel le clinicien va pouvoir agir. Et ensuite, la mesure doit être faisable, c'est-à-dire que pour n'importe quel clinicien qui soigne les patients, il doit pouvoir accéder à cette mesure. Donc si par exemple c'est le sexe, le clinicien en voyant le patient va savoir tout de suite si c'est un homme ou une femme et donc pouvoir appliquer le pronostic, souvent. Par contre, si c'est des analyses génétiques très compliquées auxquelles seulement quelques médecins ont accès, ça sera beaucoup moins intéressant d'étudier ce facteur pronostic-là et l'étude sera donc beaucoup moins intéressante.
Voilà, donc ça c'est très important d'un point de vue pratique. Parmi les facteurs qui viennent d'être cités, est-ce que vous considérez que le recueil est fiable et valide? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'ils peuvent vous servir en pratique clinique quotidienne, par exemple? Et est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut le mesurer vraiment? Donc, la réponse est oui. Vous pouvez prendre un exemple de parmi les...
Par exemple, au niveau socioculturel, c'est relativement facile à savoir si ça se fait qu'elle est une ou plus mariée ou non.
Alors, il faut faire attention sur la comorbidité parce qu'ils disent dans la page 102, en fait, dans les méthodes, c'est bien décrit en fait comment il recueille les variables et pour les comorbidités, c'est auto-rapporté par le patient. Donc, il peut quand même y avoir des problèmes de validité sur les comorbidités.
Ah, bien sûr, mais sur la dépression, on l'a vu, il y a manifestement, c'est difficile chez les vivants de diagnostiquer une dépression. Donc ça, par exemple, ça pose à la fois un problème de stabilité et de validité des outils et de la faisabilité de la mesure. Que ce soit pertinent, on s'en doute bien, on aimerait bien. On se doute bien que ça doit jouer sur le pronostic. Et en plus, on peut traiter une dépression. Donc, c'est quand même important. Mais la fiabilité et l'utilité de la mesure, c'est plus compliqué. Quand c'est le niveau de pub, on a toutes les qualités parce que c'est facile à obtenir. Bien sûr, on ne peut pas agir dessus. Mais au moins, on pourra moduler le suivi du patient, la manière avec laquelle on va se manifester par rapport à l'état, par exemple, selon le niveau d'étude du malade. C'est très important qu'il y ait cette analyse.
Alors, le quatrième critère concerne la population, donc il faut qu'elle soit correctement définie, ainsi que les modalités de sélection. Donc, la série de patients, elle peut être issue soit d'une étude plus large, comme c'est le cas ici, où en fait, il y a une cohorte et on prend tous les cas incidents de patients déments, soit d'un registre de la maladie dans lequel on a tous les cas pour une région ou une localisation géographique, on a tous les cas de la maladie, soit d'un échantillon représentatif de malades.
Bon,
donc là, ça, on l'a vu, voilà. Donc ensuite, le cinquième critère concerne le recueil de l'information. Donc on doit pouvoir savoir si c'est une étude prospective ou rétrospective. Donc dans les études prospectives, on a le recueil de l'information qui se fait au début de l'étude en même temps que la sélection des patients. Et dans une étude rétrospective, on va reconstruire les données de la cohorte, ce qui peut poser des problèmes de fiabilité et de validité des données.
Donc ici, avec toi. Oui. Non, les prospectives, hein. Les données ont été recueillies prospectivement. Peut-être pas pour tous les facteurs.
Et ensuite, est-ce que vous pouvez nous dire quand c'est que commence le suivi pour les patients? Voilà. Et la fin du suivi, en fait, c'est la même pour tous les patients. Donc, en fait, on va avoir un temps de suivi qui va être différent pour les patients, alors qu'en général, on commence à suivre les patients à l'entrée dans l'étude. Et après, on les suit jusqu'à la fin de l'étude. Dans cette étude, c'est vraiment très spécifique que le début du suivi n'est pas le même pour tous les patients.
Il est très important dans une étude pronostique que soit clairement défini la date de début du suivi et la fin du suivi. Ça, c'est un critère qui doit être clairement dit dans l'article. Si ce n'est pas clair, l'article n'est pas très très bon. C'est une étude qu'on n'a pas pris de trois études des trois cités. C'est-à-dire qu'on a pris une étude plus large dans laquelle on a inclus des patients qui, initialement, ne sont pas des membres de la population. Les gens vont développer une démence, c'est un risque de démence au cours du suivi. Dans l'étude pronostique, ils sont inclus dans l'étude pronostique quand le diagnostic de démence est posé.
Donc c'est fait entre quel âge et quel âge, c'est ça que je veux dire.
Mais ça devrait être très spécifié dans l'article. Donc ils sont suivis tous les 6 mois, ce qui veut dire que le début des inclusions de démence incidente a commencé 6 mois après le début de la BSL. Et la fin de l'étude, c'est quand?
Avril
2005. Donc, la période d'inclusion a été de juillet 2007 à janvier 2005. Et la fin de l'étude, janvier 2005. Il y a des patients qui n'ont été suivis que quelques mois. Et d'autres qui ont été suivis plusieurs années.
Donc, ensuite, on doit avoir une description des refus de participation. Donc, on doit connaître la description de la population. Il doit y avoir une description de la population effectivement incluse pour juger si la population étudiée était celle qui était réellement prévue initialement. Et surtout, on doit avoir une raison des refus ou des exclusions avant l'étude, parce que s'il y a eu beaucoup de refus, ça peut montrer que les outils de mesure sont mal acceptés et donc mal accepté en fait par les patients. Donc c'est pour ça qu'ils ont refusé l'étude. Si c'est par exemple une ponction lombaire, ils vont pouvoir refuser de participer parce que c'est un facteur pronostique qui sera difficile à mesurer en population chez ces patients.
Pourquoi c'est gênant les refus? Pourquoi les refus dans des études comme ça de participation sont gênants? La qualité de recrutement, il ne faut pas qu'il y ait trop. C'est plus. Non. On vous a parlé de deux types de cohortes, cohortes exhaustives et cohortes représentatives. Si vous avez beaucoup de refus, ce n'est plus ni exhaustif ni représentatif. Parce que malheureusement, les gens qui refusent ne sont pas comme les gens qui acceptent. En général, ils sont plutôt plus malades que les autres.
Le taux de refus acceptable, quoi.
Eh bien, on a la même question que tout à l'heure, finalement. Le taux de refus acceptable, il ne faut pas que le taux de refus soit supérieur au taux d'événement. Que vous attendez, s'il y a plus de refus que d'entrée à l'institution, c'est vraiment très ennuyeux. Mais est-ce qu'on a les refus? Parce que dans cette étude-là. Voilà, il y a un diagramme de flux.
Donc. Sur le diagramme de flux, on voit bien les différentes étapes de l'étude, avec d'abord l'échantillon, toute la cohorte entière, et ensuite nous, on se situe à ce niveau-là, c'est les cas de démence incidente qui habitent encore à domicile. Et là, c'est les événements où ceux qui ont refusé, donc il y en a 10 qui ont refusé sur 109.
Donc la taille de l'échantillon sur lequel on travaille, c'est combien ? Le dit pluriel. C'est combien?
109.
Voilà, 109, parfait. Donc il y a combien de refus sur les 109?
Oui, 10.
C'est beaucoup?
Non,
Non, c'est pas possible. Nous, on n'a pas de problème dans les consultations de mémoire avec ce qui est reçu. C'est pas nous qui avons les problèmes. Oui, c'est que des récupérants. Mais...
Oui. C'est les vivants, voilà. À la fin de l'étude, c'est ceux qui sont encore vivants et qui sont toujours à domicile.
Bah, c'est les formes, entre guillemets, un peu obésines que j'ai dit. C'est 75 ans à plus. C'est 18. Non, c'est pas tout à fait 18% parce qu'il y a des morts, c'est un peu plus. Il y a des morts et refus. Hein. On ne peut pas faire aussi vite le calcul. Il y a les morts, les refus. Les non localisés dont on ne sait pas, donc ceux-là ils ne sont plus dans le dénominateur. Ouais. Non, mais je suis toujours un peu optimiste. Vous voyez qu'il faut toujours vérifier, il ne faut pas écouter toujours ce qu'on raconte, il faut toujours vérifier avec l'information réelle. Mais attention, les gens peuvent rentrer à l'institution, ça peut être très positif ça. On est bien d'accord. Si vous avez une personne toute seule, qui est qui a été en train d'institution, elle est très cool à l'institution, sans que ce soit un drame absolu pour la société. Il faut arrêter de dire que l'institution, c'est toujours un effet négatif. Ce n'est pas obligatoirement un effet négatif. Donc,
On va voir la conclusion.
Oui. Bon.
Alors, ensuite, le septième critère, c'est le calcul de la taille d'échantillon. Donc l'effet, en fait, ce qui est important dans les études pronostiques, c'est l'effet qui est considéré comme cliniquement significatif. Donc c'est la valeur minimum du risque relatif qui va être calculé, pour lequel les auteurs concluent à une association forte entre le facteur pronostique principal et la survenue de l'événement. Mais en fait, on va aussi estimer une sensibilité et une spécificité. Donc en fait, la taille d'échantillon doit aussi permettre une estimation précise de ces deux paramètres. Donc là, est-ce que dans l'article, vous retrouvez un calcul de la taille d'échantillon ?
Non, en fait, si vous voulez, le principe est exactement le même que dans les essais thérapeutiques. Mais autant dans les essais thérapeutiques, c'est facile de se projeter parce qu'on a l'habitude en permanence de se dire « je vais donner un traitement, donc je peux gagner, j'espère gagner 2 points, j'espère gagner 3 points dans le test ». J'espère gagner tant de points dans le pays, j'espère reculer la dépendance des temps. Ça, c'est dans les thérapeutiques qu'on est capable de se projeter là-bas. Dans les études pronostiques, c'est plus compliqué. Il faut dire quel est le facteur qui vraiment va peser dans le risque d'entrée à l'institution. Et de combien il va peser? Est-ce qu'il va passer la probabilité du risque d'entrée à l'institution de 20% à 50%? D'accord? Par exemple, probablement le fait d'être marié par rapport on s'attend à ce que l'entrée de l'institution soit augmentée par la présence de tel ou tel facteur de risque. Donc quand c'est un facteur comme le statut marital, ou matériel, effectivement, je pense que ça va être 2 ou 3 fois plus. Quand c'est un facteur comme par exemple les revenus et la probabilité en fonction des revenus, ça dit comment? C'est compliqué. Et dire qu'un facteur est un facteur pronostique important, entre guillemets significatif, c'est combien? Combien de fois plus d'entrée à l'institution par semaine? C'est cette question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est 1,5 fois plus? 2 fois plus? 3 fois plus, qu'est-ce qui est important? Alors, on n'a pas trop l'habitude de réfléchir comme ça. Mais c'est exactement comme ça qu'il faut réfléchir si on veut vraiment calculer la taille de l'échantillon. C'est pas si compliqué que ça, quand même. Qu'est-ce qui est important? Déjà, 50% de plus de risque d'entrée à l'institution, c'est très important. 50% de plus, c'est un risque relatif de 1,5 seulement. 1,5, c'est important. Alors, c'est bien, très important. Probablement, si on veut un risque relatif de 1,5, il faut une taille d'échantillon très importante. Là, ce qui est calculé, là, la taille de l'échelle.
Non.
Non, elle n'est pas calculée.
Mais c'est assez rare dans les études pronostiques de retrouver dans les articles une taille d'échantillon calculée.
C'est rare. Malheureusement, c'est rare. Malheureusement, c'est rare. Et c'est très ennuyeux. C'est très ennuyeux parce que des études pronostiques de bonne qualité, il y en a très peu. Et en France, il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça. On n'a pas études à disposition, par exemple, je l'ai déjà dit au début de formation, on n'a pas à disposition de cohorte exhaustive ou représentative des consultations de points. Pour répondre à cette question-là. Ce qui fait qu'a priori, on ne se base que sur notre expérience personnelle pour fixer un pronostic. Et c'est très insuffisant. C'est très insuffisant parce qu'on ne suit pas tout le malade. Et puis c'est difficile de dire, au départ, si le malade, on va le suivre. Vous voyez, c'est très très important, ça. Ça me permet de dire, il y a vraiment un manque, là. C'est un domaine qui est très pratique, très utile, qu'on manipule sans arrêt, sans savoir, comme M. Jourdain faisait de la pause, et nous manquons d'études dans lesquelles il y a une taille d'échantillon qui a été calculée, qui a été bien faite, on n'en a pas. Heureusement qu'il y a les études de Bruno Vélas. Bon, mais c'est un palliatif, parce que ces études-là ont permis de faire beaucoup de progrès, et malheureusement, elles ne sont pas une étude exhaustive ou représentative, en particulier si on veut s'adresser à des gens qui n'ont pas des dents, ou avec des dents qui sont diffusants et non participatifs. On n'en a rien, là. C'était très ennuyeux.
Alors, le critère 8, c'est le respect des aspects éthiques et réglementaires. Donc, en fait, il faut un maintien de la confidentialité et de l'anonymat, une déclaration des fichiers à des instances telles que la CNIL et une obtention du consentement éclairé si la prise en charge n'est non habituelle. Et ça doit être bien précisé dans l'article si ça a été fait ou non. Donc, est-ce que dans l'article, là, vous retrouvez s'il y a une notion sur les aspects éthiques et réglementaires ? C'est dans la partie méthode en général. Hein, c'est...
Dans le cas particulier des études, je pense que le consentement éclairé a été donné alors que la personne ne s'est pas demandée. C'est le suivi cohorte. C'est dans le suivi cohorte qu'il est prévu, à très long terme, qu'on puisse analyser le risque de démentir la science. C'est ne pas spécifier. C'est une liste de études. Mais, enfin, c'est des études comme Patouille ou comme 3C. Alors, dans Patouille des gens 3C, on demande au départ, alors que les gens ne sont pas démentis, est-ce que vous êtes d'accord qu'on va se suivre et si bien sûr on va rechercher, on va vous tester, on va chercher des informations, on va se prendre une discussion avec tout le monde. Tout ça est précisé maintenant. Vraiment, ça nous pose problème, parce qu'on va jusqu'au risque de mort. Donc là, on est pas lié.
Pour revenir sur ça, parce que pendant des années, on fait des études à l'agence, dans l'agence, pour les étudiants étudier. C'est insupportable, c'est pas possible. Il y a des recommandations internationales, il existe des lois aussi, c'est la loi URI en France. Je crois qu'il faut bien comprendre. Alors, le critère des patients dément, c'est le cas des estimants qu'il y a un trouble du jugement. C'est ça qui nous fait penser qu'ils ne sont pas en mesure. Moi, je fais des études à des patients dément avec leur famille ici. Si le client, ok, je suis pas sûr qu'ils ont compris l'ensemble des lignes que j'aurais lues, parce que ça aussi, il faut le faire, il faut lire l'ensemble des lignes. On va s'arrêter à l'heure de signer, vous voyez, je ne fais rien, je fais le consentement, vous faites une étude en vélo. Normalement, la règle, ça prend, avec un dément, moi ça me prend 1h30, aussi bien que son temps. C'est clair, parce que je lui dis, je me pose des questions, et on est surpris des fois avec des gens comme des MMS à 14 hein, ou 15. On pose quand même des questions dès qu'on parle du sport, de la vie, la mort, le risque, la famille, etc.
En fait, dans l'étude particulière, c'était au début, le problème est réglé.
Sauf que c'est pas fait.
Mais vous voyez que s'il faut faire ça à tous les patients, vous vous rendez compte que le risque de désélection que l'on a, mais c'est pas obligatoire, ils vont passer par là, c'est la loi. Et c'est vrai que c'est visible dans les cours. à cause de ça.
Donc, c'est bien possible. Donc le critère 9, c'est qu'il y ait des retraits raisonnables en cours d'étude, donc c'est ce qu'on a regardé tout à l'heure. Donc il y a un rejet si les sujets sont retirés de l'étude sont différents vis-à-vis d'une variable importante à se rester dans l'étude. Si le nombre de retraits est important comparé au nombre d'événements d'intérêt, ou si le nombre de retraits est différent chez les patients ayant le facteur pronostique et de ceux ne l'ayant pas.
En fait, il y a trois pronostics de retrait, les refus, les morts, alors les refus avant d'entrer à l'institution, les morts avant d'entrer à l'institution, et les pertes de vue avant d'entrer à l'institution. C'est cela. Et donc c'est 47,7%. C'est beaucoup ? Ben oui, bien sûr.
Non, c'est pas. Les 47,7%, c'est ceux qui sont institutionnalisés.
C'est ceux qui sont institutionnalisés, 52. Oui, d'accord, pardon.
Mais dans les 52,3%, c'est pas que des retraits d'études. Il y a aussi ceux qui sont toujours vivants.
C'est ça.
C'est dans, en fait, on le voit dans le flowchart, ceux qui sont morts, il y en a 24.
Les choses soient claires pour tout le monde.
Voilà. C'est ceux qui sont morts, ceux qui ont refusé, il y en a 10, et ceux qui n'ont pas perdu de vue, il y en a 5.
Cela vient.
En général, dans une étude pronostique, il faut regarder les retraits d'études et c'est les perdus de vue, les perdus de vue. Après, ça dépend si c'est les décès, ça dépend du type d'événement. Mais dans cette étude, ils ont été quand même pris en compte dans l'analyse, puisqu'ils ont fait une analyse de survie. Donc, on peut prendre en compte le temps. Donc là, au moment où ils sont sortis d'études, ils ont censuré la donnée.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, à part les refus, qui au départ ne veulent plus être suivis. S'il y a 10 refus, donc cela, c'est des retraits.
Mais si tu sors les morts.
Les morts, tu les sors au moment où ils meurent.
Ils sont censurés au moment où ils meurent, dans l'analyse.
Personne ne comprend ce que ça veut dire censurer.
Ah, c'est pour ça.
Personne ne comprend ce que ça veut dire censurer. La notion de censure veut dire qu'on utilise les données du patient jusqu'à l'événement mort. Donc si la personne meurt, par exemple, 3 ans après son diagnostic, ces 3 ans comptent comme le temps qu'elle a passé chez elle. Elle rentre dans l'analyse avec ce compte de 3 ans passé chez elle. D'accord ? Et après elle est morte, ça ne s'est pas ce qu'elle veut dire. Ceux qui refusent sont dans l'analyse jusqu'au moment où ils refusent. Ceux qui sont perdus de vue sont dans l'analyse jusqu'au moment où ils sont perdus de vue. Ceux qui sont rentrés en institution sont dans l'analyse jusqu'au moment où ils sont rentrés en institution. Et ceux qui sont restés à domicile en 2005 sont comptés dans l'analyse jusqu'à la date de 2005. C'est une analyse qui est longitudinale. C'est peu compliqué, en présence d'une analyse de survie de temps moyen passé.
Donc, c'est sous-tendu dans cette étude, pendant ce temps de temps, c'est que l'entrée en institution, c'est un échec. On va retenir ce qui permet de ne pas y rentrer. Moi, je considère que mourir chez soi quand on est à l'humeur, c'est une vraie fille.
Oui.
Bon, c'est un peu.
Ça, c'est effectivement une discussion sur la pertinence du critère et de la manière avec laquelle on va l'interpréter. Peut-on réellement dire que l'entrée en institution est toujours négative ?
Non, mais c'est ce qui est suggéré dans
l'analyse. C'est ce qui est suggéré dans l'analyse, mais d'accord, c'est une idée. On chiffre à combien à peu près les entrées en institution négatives ? On ne sait pas.
Ça va être négatif au début et vachement bien après.
On n'a pas d'étude. Mais en fait, c'est quand même 80-90% et 10 à 20% qui sont positifs parce qu'elles étaient nécessaires pour l'état du malade, surtout le comportement. Parce qu'il avait bien retrouvé une nouvelle vie à l'institution, nous-mêmes, dans notre pratique, on le considère au départ surtout comme un événement négatif. Dans les essais thérapeutiques, c'est comme ça qu'il est fait. Et dans des essais comme les essais traitant les médicaments, c'est constaté. Alors, c'est pas obligatoire, non.
Donc le dixième critère, c'est sur l'événement qui est prédit, justement. Donc cet événement, il faut qu'il soit pertinent et qu'il soit mesuré correctement. Donc l'événement prédit doit influencer nettement la vie du malade et sa prise en charge. Le critère de mesure doit être fiable et valide et il doit être mesuré en insu, c'est-à-dire qu'il doit être mesuré sans connaître les facteurs pronostiques qu'a ou que n'a pas le malade. Donc là, vous pouvez me dire quel était l'événement prédit ?
C'est l'entrée en institution.
Donc l'entrée en institution, ça influence en effet nettement la vie du malade. C'est clairement défini et la mesure est fiable et valide. Par contre, on n'a pas de notion s'il y avait un insu ou pas, mais a priori, on sait si le malade rentre ou ne rentre pas en institution, il n'y a pas de juste milieu.
Oui, parce que là, l'insu, quand même, c'est vraiment... C'est surtout quand le critère est subjectif qu'il faut l'insu. Là, quand c'est rentré en institution pour la mort, mon Dieu... On va mesurer de la même manière tous les gens qui sont morts et tous les gens qui sont rentrés à l'institution. Ils sont rentrés, ils ne vont pas rentrer. C'est un critère vraiment très objectif. Donc l'insu n'est pas absolument nécessaire.
Alors,
il y avait le critère de mesure fiable et valide.
Non, c'est pour mesurer si l'événement est présent ou absent, il faut que ce soit l'outil de mesure soit fiable et valide. Si par exemple je n'ai pas d'exemple.
Que dès le départ, ils ont souhaité préciser quel type de méthode fastidique j'utilisais, c'est différent dans les deux cas. C'est la méthode de Kaplan pour l'histoire de la durée, et la méthode Cox. On sait que dans certaines études, quand c'est un critère qui est bien inscrit, la vérité qu'à faire, on rendait bien les critères dans la mesure statistique qui était prévue au départ, de façon à ce qu'on ne modifie pas la validité de la vérité.
Ouais.
Donc là, dans leur diagramme, je n'ai pas vu qu'il y avait écrit Kaplan sur le côté, mais bon, après ils disent en dessous que c'est bien Kaplan. Mais on ne sait pas pourquoi ils ont choisi deux méthodes statistiques différentes d'analyse.
Est-ce que Kaplan, c'est une méthode descriptive? Permet d'avoir une probabilité, de mesurer la probabilité d'entrer à l'institution avec le temps, sans faire d'hypothèse sur l'évolution de cette entrée à l'institution. Et si tu veux étudier un facteur, par exemple, les vieux contre les jeunes, ou les hommes contre les femmes, tu peux faire du Kaplan de Meyer, tu peux comparer les Kaplan de Meyer à ce que tu veux. Sans faire l'hypothèse statistique est très importante, même si c'est non paramétré, tu peux le faire. D'accord ? Le modèle de Cox a une vertu, c'est qu'il permet de prendre en compte de multiples facteurs. Donc ça, c'est une vertu qui est indispensable dans une étude exploratoire dans laquelle on utilise 10 facteurs ou 15 facteurs. Donc on ne peut pas faire du Kaplan, il y a trop de facteurs. Donc on fait du Cox. L'inconvénient du Cox, c'est qu'il a des hypothèses, on n'a pas le temps de ça. Hypothèses de base statistiques qui ne sont pas toujours vérifiées. Logiquement, il faudrait vérifier. C'est la raison pour laquelle, parce qu'on fait des multivariés avec du Cox, alors que si on fait des doses critiques et des multivariés, on peut utiliser la plan de 30.
Je veux juste souligner qu'il faut bien regarder à la fin que l'analyse statistique proposée au départ est la même à la résidence.
Bien sûr.
Enfin, vous lisez l'article.
Bien sûr. Oui, c'est aussi pour ça que j'avais essayé de la prédire. Le protocole est soumis.
Après, c'est les modalités pratiques qui doivent être pertinentes pour la pratique clinique, donc c'est-à-dire que ça doit pouvoir être utilisé par le clinicien. Donc le marqueur pronostique doit être applicable en pratique clinique et il doit apporter quelque chose par rapport aux autres marqueurs existants. Donc là, c'est la première étude sur l'institutionnalisation. Donc les facteurs pronostiques étudiés, c'est exploratoire. Donc on ne s'attend pas à ce qu'il n'y en a pas déjà existants. Donc.
Il y a d'autres études déjà publiées. Mais en tout cas, on peut dire que ceux qui sont proposés ici sont très pertinents puisqu'on peut, vraiment dans la clinique quotidienne, on peut les utiliser. C'est pour ça qu'ils sont pertinents.
Ensuite, c'est le deuxième critère porte sur le suivi. Donc on doit avoir la durée prévue et la durée effective du suivi. Et ça doit correspondre à l'histoire naturelle de la maladie pour avoir assez d'événements pour pouvoir identifier les facteurs pronostiques. on doit aussi avoir un suivi régulier et identique chez tous les patients. Si par exemple, le suivi, c'est celui qu'il y a en général pour les patients malades, les patients qui ont les facteurs pronostiques les plus graves vont être suivis plus souvent que ceux qui ont les facteurs pronostiques moins graves. Donc il peut y avoir un biais de surveillance. Donc en fait, il faut vraiment que le suivi soit systématisé. Et si c'est le suivi normal de ce que l'on observe chez des patients malades, il faut qu'il y ait quand même un minimum de suivi régulier. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, la durée de suivi était de 7 ans. Donc c'est pertinent avec l'événement prédit et l'institutionnalisation. Et le suivi était systématisé, puisqu'en moyenne, chaque 1,4 ans.
Oui, mais 1,4 ans, c'est quand même beaucoup.
Oui, c'est quand même beaucoup.
Ouais, c'est beaucoup. Tous les 1,4 ans, chez les démences, c'est beaucoup. Donc c'est une limite, parce qu'il se passe beaucoup de choses en même temps chez la démence. On s'expose à avoir ce qu'on appelle, alors c'est encore de la censure, censure par intervalle. C'est-à-dire qu'il peut se passer tellement de choses dans deux intervalles de suivi qu'on peut être ennuyeux. Il peut, par exemple, entrer en institution et mourir, et sans qu'on le sache. En ça peut très bien se faire. Hein. Ça se fait même en 6 mois, parfois en 1 mois. Donc, 4 ans, c'est quand même beaucoup. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais par rapport à... C'est la limite des études en population, souvent. On ne voit pas les gens suffisamment fréquemment. C'est pour ça que les études en population, ben c'est, par certains côtés, c'est bien parce qu'il y a la représentativité, mais par d'autre côté, par le manque de suivi, le manque de précision, et en fait, il faut les deux. Il faut les deux. Alors, à l'intégration des méthodes statistiques, on vient d'en parler.
Voilà, Il faut d'abord une estimation d'un risque relatif, donc c'est ce qu'on a vu avec la méthode Kaplan-Meier ou Cox, on peut soit analyser pour un facteur s'il y a le risque relatif est augmenté ou diminué, et après on peut analyser pour tous les facteurs en même temps en utilisant le modèle de Cox. Mais il faut en plus analyser la sensibilité et la spécificité, c'est-à-dire de pouvoir savoir si le marqueur pronostique prédit correctement la survenue de l'événement. Donc là, ça c'est le tableau qu'on peut retrouver, avec si le facteur pronostique est présent, s'il y a la survenue de l'événement ou si l'événement ne survient pas, et si le facteur pronostique est absent, pareil, survenue de l'événement, oui ou non. Donc ça permet d'estimer le risque relatif, la sensibilité et la spécificité. Donc vous savez ce que c'est que la sensibilité et la spécificité ou...
Donc la sensibilité, c'est parmi les sujets qui sont rentrés à l'institution, quelle est la proportion de ceux qui avaient le facteur pronostique. Parmi les sujets qui sont rentrés à l'institution, quelle est la proportion de ceux qui avaient le facteur pronostique. C'est ça la sensibilité en pronostic. La spécificité, c'est parmi les sujets qui ne sont pas rentrés à l'institution, quels sont ceux qui n'avait pas de facteur pronostique. C'est le symétrique du diagnostic, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous sert, la sensibilité et la spécificité. Ce qui nous sert plus, c'est la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative. C'est-à-dire, si on a le facteur pronostique, quelle est la probabilité d'entrer dans l'institution. Et ça, c'est la valeur prédictive positive. La valeur prédictive négative, c'est ce qu'on n'a pas le facteur pronostique. Pas facteur et la probabilité de ne pas rentrer dans la situation. C'est ça qui nous sert plus. Et ça, on n'a pas le temps de disserter là-dessus. Vous l'apprendrez avec. C'est très bien expliqué dans le module. Sinon, c'est exactement la même notion de sensibilité et de spécificité pour un test diagnostique. C'est pareil. C'est la même chose. Et c'est une des choses. Quand on n'utilise pas, quand on dit par exemple que le MMS, c'est pas un test très sensible dans la maladie d'Alzheimer, et c'est pas un test très spécifique non plus, ça veut dire quoi? Vous savez ça, ce que ça veut dire? C'est vrai, c'est ni un test ni très sensible, ni très spécifique. Et c'est vrai, il n'est pas très sensible, ni très spécifique. Alors que le Robert Bush, un test à la fois très sensible et très spécifique. Dans les maladies d'intérêt. Le problème, c'est que le MMS est utilisé par tout le monde. Dans notre pratique quotidienne, on le fait toujours. Le gros beurre, c'est exceptionnel. Enfin, on le fait en consultation mémoire, mais le médecin général ne le fait pas. Mais ça, c'est très important de comprendre ces notions.
Donc, là, ça reprend bien dans l'étude, ça reprend bien le risque relatif. Le hasard ratio, en fait, c'est comme le risque relatif, c'est une estimation du risque relatif. Donc, pour chaque facteur pronostique, on a le risque relatif ajusté sur les autres facteurs pronostiques. C'est ce qu'on a avec un modèle de Cox, en fait. Par contre, on n'a pas de calcul de la sensibilité et de la spécificité dans cet article.
Et ni de la valeur prédictive.
Et ni de la valeur. On n'a pas de calcul de prédiction, en fait.
On a juste un calcul de risque, on n'a pas un calcul de prédiction. Ce qui, pour l'aide à la décision, les deux sont importants. Quand on a un malade, qui a tel âge, tel sexe, tel niveau d'études, est-ce qu'il est marié ou célibataire, c'est très important de savoir s'il a trois fois plus de risque de rentrer à l'institution, c'est une chose. C'est aussi important de savoir si c'est 8% son risque d'entrer en institution, 20%, 30%, 40%. Les deux chiffres sont importants, vous voyez, pour l'aide à la décision. Si vous avez un malade qui a 90% de risque d'entrer en institution dans les deux ans qui viennent, vous allez très tôt vous préoccuper de savoir comment il va pouvoir payer, prévenir les gens, préoccuper est-ce qu'il est d'accord. S'il a une probabilité de 10%, vous pouvez temporiser. Ça vous laisse le temps. Vous voyez, c'est vraiment des choses très utiles. Et pour l'instant, il ne fonctionne pas comme ça. C'est bien. Parce qu'on n'a pas les outils pour le faire, on n'a pas les études. Pour les faire, c'est pas une étude comme ça.
Donc ensuite, quand il y a le calcul des paramètres de prédiction, il faut qu'il y ait une description des erreurs de prédiction pour voir la gravité des conséquences de ces erreurs, en fait. Si jamais ça prédit qu'un patient va rentrer en institutionnalisation et qu'il rentre pas et qu'il n'est pas institutionnalisé, est-ce que c'est grave pour le patient ou pas? Donc il faut bien que ça décrive ces erreurs.
Est-ce qu'on aborde dans cet article le problème des erreurs?
Comme il n'y a pas d'estimation des paramètres.
Non, il n'y a pas d'estimation des paramètres.
Voilà, donc là il y a une grille, qu'on peut utiliser pour lire les études pronostiques et ça met la présentation sera sur le site Alzheimer, donc vous pourrez la récupérer.
Vous voyez, on a vu tout à l'heure un essai thérapeutique qui était plutôt très bien fait. Et des essais comme ça, des essais publiés, c'est vrai, correspondent à des critères. Vraiment, quand vous avez un essai thérapeutique, vous pouvez vraiment faire confiance, même si on a vu quand même quelques critiques dans l'essai. Par contre, les études pronostiques, et on peut dire la même chose des études diagnostiques, à un degré moins dans les études écologiques, sont souvent bien moins bonnes qualité. Et ça, c'est très ennuyeux. C'est très ennuyeux, il faut que ça évolue. Il faut savoir repérer les bonnes études, parce que c'est vraiment extrêmement utile pour nous, surtout que nous allons suivre maintenant ce malade. Il y a 10 ans de ça, nous ne suivions pas ce malade. Il faut bien le dire. Il y a 10 ans, on ne suivait pas ce malade. On est la gériatre peut-être plus suivi, qui était en maison de retraite. Et ces malades n'étaient pas suivis. Donc il n'y avait pas besoin de pronostic si on ne les suivait pas. On se contentait du diagnostic et de l'efficacité thérapeutique. Maintenant, on les suit. Donc, le pronostic devient. Et le problème, c'est qu'on a mis en place les consultations mémoire sans avoir cette connaissance pronostique. C'est vraiment très gênant pour lui. Très gênant. Est-ce qu'il y a des questions?
Je vais parler de la conclusion. C'était juste l'interprétation que vous faites.
Oui.
Au départ, on ne sait pas ce qu'il cherchait. Ils ont pris des facteurs comme ça, qui ont été retenus, l'âge, le sexe, l'éthiologie de la démence, la comorbidité, etc. Puisqu'on aurait pu peut-être dégager un critère, on aurait donné des pronostics du risque de rentrer en maison de retraite. Au bout du compte, on retient que seulement de ne pas être, avoir une femme à la maison. Donc il va falloir dire.
Une femme ou un homme?
Ce spouse. Un compagnon, ça veut dire qu'on va être ceux qui sont déments seuls, on va les conseiller de trouver quelqu'un.
En pratique, ça veut ça. Donc, alors justement, sur la pertinence de ce résultat, c'est quand même assez intéressant. Sur la pertinence de ce résultat, de dire que finalement on a étudié l'âge, le sexe, le niveau d'études, le statut socioculturel, le statut matrimonial, bon, mettons-nous à ces cinq facteurs. On trouve un résultat positif, le statut matrimonial. Alors, est-ce en fait c'est intéressant ça? Elle a fait des ouvertes. Bah, faut le dire, on ne sait pas le scoop. Néanmoins, le risque, il passe de combien à combien?
À 8.
8,03. C'est 8 fois plus. 8 fois plus, c'est un célibataire, qui est cancer, qui a l'homicide. Et en moyenne, c'est combien qui sont rentrés dans l'institution? 52 sur
57 sur 109.
Bon, voilà. Alors, ils n'ont pas donné ni la sensibilité ni la valeur prédictive. Mais on peut dire que le fait de vivre seul, et passer le risque d'entrer dans l'institution, de 10% à 20%. C'est à peu près ça, quelque chose. Quand on dit ça, déjà, c'est un peu moins la porte ouverte. Ils ne l'ont pas dit. Ils ne le disent pas. Mais déjà, 8 fois plus, ça veut dire que vraiment, les célibataires, il va falloir faire quand même extraordinairement. Il va falloir tout faire pour préparer cette entrée à l'institution, c'est une situation là. C'est une situation complexe qu'il faut confier à un réseau, à l'intérêt. On n'a peut-être pas besoin d'études comme ça pour le dire. C'est certain.
Non, mais
c'est pas parce qu'il y a un résultat, ça se pose pour l'institution, mais si on chiffre vraiment ce résultat, si on dit voilà les chiffres que ça donne, bah, il ne les donne pas complètement. C'est un peu dommage. Bon, et puis il y a autre chose qui est intéressante, quand même, là-dedans. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que les autres facteurs ne jouent pas. Et là, je ne joue pas. C'est-à-dire que la probabilité d'entrer à l'institution va être la même si les gens développent une démence, qu'ils aient 60 ans ou qu'ils aient 90 ans. Et ça, c'est un résultat extrêmement intéressant. Il n'y en a pas, évidemment. Le fait de dire que l'âge auquel on déclenche une démence n'est pas un facteur de risque d'entrer en institution, que finalement la probabilité de rester chez soi au bout de 3, 4, 5 ans est la même qu'on soit vieux ou qu'on soit jeune, je trouve que pour la société, c'est vachement important. C'est vachement important comme résultat. C'est un résultat négatif. Et on ne fait jamais attention au résultat négatif. Vous voyez, on peut tirer des choses quand même très importantes. Parce que on peut dire que ça, mais c'est des gens qui vont tous rentrer à l'institution, ça va nous coûter un pognon fou. Mais attendez, les jeunes gens, ils rentrent aussi à l'institution. Mais ils m'en bien. Vous voyez, c'est pas si simple que ça pose problème. Est-ce qu'ils sont plus âgés ou plus simples? C'est pas si simple. C'est quand même pas rien, un résultat comme ça. Vous voyez, il faut faire attention au côté un peu versant, mais eux ne l'ont pas évoqué. C'est pas une étude
parfaite.
Quelle est la raison? Cette étude au départ n'a pas été réellement construite pour ça. À partir du moment où cette étude n'a pas été construite pour ça, on ne s'est pas posé des questions aussi importantes que celles de l'étude. C'est évidemment une limite de l'étude. que l'étude n'a pas été construite pour ça, c'est ce qu'on appelle une étude ancillaire d'une étude déjà existante, où on a étudié ça, mais ça ne nous est pas ici parlé, parce qu'il n'a pas pris, il a juste fait un peu plus. Par exemple, là, actuellement, dans Papier, on étudie la relation entre l'hypertension artérielle et le risque de démence sur 20 ans. Et on trouve. Le problème, c'est que notre seule mesure de l'hypertension artérielle, c'est l'hypertension artérielle habituelle. Elle a été mesurée simplement sur un sous-ensemble. Parce que ça n'a pas été fait pour ça, l'étude n'a pas été faite pour ça. Les résultats sont intéressants, mais malheureusement, on manque de données. Et ça, c'est le risque de ce type d'étude. C'est pour ça qu'il faut. Il vaut beaucoup mieux construire des études pour répondre à une vraie question. Ça, c'est l'idéal. C'est évidemment l'idéal.